Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
La République En Marche organise demain et après-demain son premier campus des territoires à Bordeaux. On va en parler tout de suite. Mais avant, on vient d'apprendre le décès de Robert Mugabe. RFI va être en spécial toute la matinée. Est-ce que vous avez une petite réaction après le décès de l'ancien président du Zimbabwe?
Je crois que c'est une page qui se tourne définitivement puisqu'il n'était plus au pouvoir depuis 2 ans. C'était à la fois un héros de la décolonisation, mais aussi, vous l'avez rappelé, je crois, à l'antenne, quelqu'un qui a dirigé son pays d'une main de fer pendant 37 ans. La page est maintenant définitivement tournée.
Merci Stanislas Guérini. Donc, demain, à Bordeaux, c'est le premier campus des territoires de la République En Marche. Pourquoi avoir décidé de sacrifier à cette tradition politique de l'université de rentrée? Si je me souviens bien, cela faisait partie des habitudes un peu de l'ancien monde qui ne correspondait pas à la nouvelle manière de faire de la politique souhaitée par Emmanuel Macron en 2017.
Vous savez, moi, je ne suis jamais rentré dans cette rhétorique de l'ancien monde et du nouveau monde. Je crois qu'il faut prendre le meilleur des deux mondes, vous me permettez l'expression. Tout dépend de ce qu'on y fait. Et en l'occurrence, je crois que ce campus des territoires, il traduira la spécificité d'En Marche. C'est-à-dire la volonté d'agir sur le terrain, parce que c'est ça En Marche, et des citoyens qui, en 2017, se sont relevés les manches et se sont dit qu'on va se mettre ensemble pour changer notre pays concrètement. Voilà le moment de le faire localement. On aura bientôt des élections municipales, des élus locaux de la République En Marche. Comment est-ce que on fait vivre le progressisme au niveau le plus local? Et puis, on continuera à accompagner des citoyens dans leur engagement. La République En Marche mène un grand nombre de programmes dans les quartiers, dans les zones rurales. On aura 1000 personnes qui ont été accompagnées cette année pour mener des projets citoyens, pour transformer leur quotidien, le monde qui les entoure. C'est ça la République En Marche, et donc ce campus des territoires sera à l'image de notre mouvement.
Est-ce que ça montre aussi qu'il fallait un moment pour mettre du liant dans le parti, créer peut-être une nouvelle dynamique après la présidentielle? Il y avait eu une petite phase de creux dans l'organisation du mouvement, là, vous avez senti qu'il y avait ce besoin-là?
Vous savez, nous sommes le seul mouvement qui a doublé son nombre d'adhérents depuis l'élection présidentielle. Donc en réalité, les adhérents de la République En Marche sont là. Mais oui, bien sûr qu'il y a besoin de mettre du liant. Je dirais, au sein de la République En Marche, c'est mon boulot, je dois être l'animateur de ce collectif-là, mais aussi au-delà. Et ce campus des territoires, c'est un moment d'écoute, d'ouverture. Nous avons ça dans notre ADN, on a commencé ce mouvement en faisant la Grande Marche. Mais est-ce qu'on a toujours suffisamment entendu? Peut-être pas. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu que ça soit...
La crise des Gilets jaunes l'a montré.
Exactement. Et je crois d'ailleurs qu'un bon nombre d'animateurs de comités locaux, d'adhérents, nous faisait remonter des signaux faibles qui venaient précisément des territoires et peut-être qu'on n'a pas suffisamment entendu. Eh bien, ce temps-là doit être terminé. C'est l'acte 2, d'une certaine façon, pour notre mouvement. Je veux que ce campus ne soit pas un moment où la République En Marche regarde le nombril. C'est un moment où on doit écouter. C'est la raison pour laquelle on a invité des sociologues, des écrivains, des intellectuels, des think tanks, des partenaires politiques aussi venus de la gauche, de la droite, de l'écologie, des élus locaux. C'est ça qui doit faire demain la richesse de ce bloc central dans la vie politique que l'on doit créer, un bloc des progressistes. C'est aussi l'occasion de ce campus de faire vivre et de consolider ce bloc-là.
Vous l'avez dit, c'est l'acte 2. Est-ce que ce campus, c'est aussi une manière de montrer la volonté de réconcilier le local et le national et d'associer, comme le veut le président de la République, comme il a dit le vouloir, les citoyens à la politique du gouvernement? Il y aura pléthore de ministres qui seront présents samedi et dimanche à Bordeaux. Ça sert aussi à ça, c'est un petit peu...
Bien entendu, c'est exactement ça. Je crois qu'on voit que depuis 2 ans, on mène des réformes qui auraient dû être menées depuis quelques décennies. Et je suis totalement convaincu que nous emmenons le pays dans la bonne direction, et d'ailleurs avec des résultats sur la croissance, des résultats sur l'emploi, des résultats sur le pouvoir d'achat, et je m'en réjouis. Mais est-ce que la vie quotidienne de nos concitoyens a suffisamment changé? Non, pas encore. Et si nous ne réussissons pas à relever ce défi-là, alors on continuera à avoir un pays qui est extrêmement polarisé. Je crois que c'est ça le grand défi qui est devant nous. Et pour relever ce défi-là, eh bien, on voit qu'on doit le faire au niveau local. Bien souvent, j'ai coutume de dire que c'est le dernier kilomètre de la réforme qui est le plus important. C'est pas ce qu'on vote à l'Assemblée nationale, c'est la façon dont nos concitoyens, dont les élus locaux s'en emparent sur le terrain et changent la vie des gens. Eh bien, c'est ça l'enjeu qui est devant nous et c'est la raison pour laquelle on va confronter la quasi-totalité des ministres du gouvernement avec des citoyens, porteurs de projets, avec des élus locaux, pour justement définir, inventer ce progressisme à l'échelle locale et municipale.
Alors, ce qui peut changer la vie des Français, c'est la réforme des retraites. C'est un des grands sujets de la rentrée. C'est certainement le plus sensible. Elle est repoussée à un peu plus tard, vraisemblablement après les municipales. On n'a pas encore un calendrier définitif. Le Premier ministre consulte les partenaires sociaux en ce moment. Pourquoi prendre autant de temps? Est-ce que vous avez peur d'une sanction dans les urnes municipales si ça ne passait pas?
Non. Je crois que c'est précisément parce que c'est une réforme extrêmement ambitieuse, parce que au fond, cette réforme, c'est un projet de société qui est porté, qu'il faut prendre le temps pour le mener à bien. C'est peut-être ça la différence entre l'acte 1, où on a mené un certain nombre de réformes à un rythme effréné, et puis l'acte 2, où je crois que nous avons compris qu'il ne faut plus réformer pour les Français, mais avec les Français. Et puis, parce que ce projet est justement complexe, qu'il est porteur d'un grand nombre de changements, puisqu'on va changer de système, on va passer d'un système qui est aujourd'hui assez injuste, complexe, illisible, 42 systèmes de retraite, à un système universel, beaucoup plus juste, eh bien, c'est une grosse mécanique à mettre en place et donc il faut le faire en concertation avec nos concitoyens.
Un sondage indique ce matin que un Français sur trois estime que le gouvernement ne parviendra pas à faire une réforme d'ampleur sur les retraites. Ça vous inquiète? Ça rend encore plus nécessaire cette concertation?
C'est précisément pour ça que je crois qu'il faut prendre le temps d'expliquer d'abord pourquoi on a besoin de changer de système. Parce que au fond, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place un système qui avait une vocation universelle, mais qui s'est petit à petit éloigné de cette vocation-là. Prenez l'exemple des agriculteurs. Ils ont mis en place un système de retraite spécifique, sauf qu'au moment où on l'a mis en place, il y avait 4 agriculteurs actifs et 1 agriculteur inactif. Ce chiffre s'est inversé aujourd'hui. Et les agriculteurs sont en difficulté. On voit bien qu'il faut tout reconstruire. Et donc, catégorie professionnelle par catégorie professionnelle, il faudra expliquer et travailler.
Ça, c'est l'ambition. Il y a un problème qu'a évoqué le président de la République dans son interview après le G7. C'est le choix entre l'âge pivot, défendu par Jean-Paul Delevoye, 64 ans, ou l'allongement de la durée de cotisation. Vous, en tant que chef du parti majoritaire, qu'est-ce que vous allez défendre? Sur quelle ligne êtes-vous?
Je crois que il est trop tôt pour trancher ce débat-là. Ça fera aussi partie des discussions et des négociations qu'on doit avoir particulièrement avec les partenaires sociaux concernant ce sujet-là. Il faut remettre notre système à l'équilibre.
C'est une main tendue aux partenaires sociaux,
2025,
notamment aux syndicats.
Oui, pour pouvoir faire cette réforme. Et là aussi, je pense que avec celles et ceux qui portent des positions sur ce sujet-là, il faudra construire. Le président de la République a donné un avis sur ce sujet.
Ça veut
qui
dire
me
qu'il y a
semble,
une vraie négociation qui est possible
raisonnable.
Sur les retraites.
Oui, bien sûr, et ce n'est pas une posture que de la majorité que de le dire. Nous voulons co-construire cette réforme avec les partenaires sociaux, mais aussi avec nos concitoyens.
Autre sujet, vous l'avez abordé au début de cet entretien, ce campus de Bordeaux, vous allez aussi préparer les municipales, la prochaine échéance. On voit qu'à Paris, eh bien, ça s'engage cette campagne dans la division. On a un candidat officiel, Benjamin Griveaux, un dissident, Cédric Villani. Est-ce qu'il peut vraiment rester à la REM, Cédric Villani, alors qu'il a mis en cause le processus de désignation du candidat?
Vous savez, précisément, ce que nous voulons éviter, c'est la division. Et je crois que, face au choix de Cédric Villani de se lancer malgré le processus de décision, je l'ai dit clairement, je regrette ce choix. Mais nous avions deux options et nous avons choisi de ne pas l'exclure. Pourquoi? Parce que le candidat investi par La République En Marche, Benjamin Griveaux, nous a demandé de ne pas l'exclure. Justement, pour ne pas tomber dans ce qu'il y a mis fin aux partis politiques traditionnels, justement pour se donner la chance de rassembler à la fin, de continuer à tendre la main, de mener cette campagne.
Un,
et donc notre candidat investi.
Un sondage donne un avantage en termes d'image, d'opinion favorable à Cédric Villani sur Benjamin Griveaux à ce stade. Si cet avantage se confirmait, est-ce que le rassemblement pourrait avoir lieu derrière Cédric Villani?
Nous n'avons qu'un seul candidat, c'est Benjamin Griveaux, aujourd'hui et demain. Et vous savez, les sondages d'opinion, on en a plein qui donnent des choses très différentes. Il y a des sondages en termes de popularité, des sondages en termes d'intention de vote. Donc, vous savez, je crois qu'au bout du compte, c'est quand on va rentrer dans cette campagne et dans les propositions que les Parisiennes et les Parisiens se feront un jugement sur leur prochain maire.
Juste une dernière question, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contagion des dissidences? Il y a plusieurs villes dans lesquelles ça pourrait se produire. On pense à Lyon, David Kimmelfeld face à Gérard Collomb. Comment vous allez résoudre ce problème?
Ben, par le dialogue, en discutant. Et je suis certain que nous partirons rassemblés dans l'immense majorité des villes de France et, je l'espère bien, à Lyon aussi.
Merci Stanislas Guérini.